aujourd'hui, je vais continuer dans les actes. Enfin, je vais parler du chapitre 24 et des versets de 10 à 25. Le plan de ma prédication va être... En premier, je vais parler du discours de Tertulle. Je vais vous présenter qui est Tertulle. Ensuite, le discours de Paul. Après, nous verrons les accusations contemporaines et notre réaction à ces accusations. Et en dernière partie, je parlerai de la réaction de Félix aux propos de Paul. Donc, qui est Tertulle ? Eh bien, c'était un avocat embauché par les Juifs pour les représenter devant Félix, le gouverneur. Et à en croire les commentaires, il était assez courant pour les Juifs de demander d'être représentés à Jérusalem devant les tribunaux romains, car les plaidoiries souvent étaient en latin. Et pour son nom, Tertulle, au niveau de l'étymologie, ça veut dire imposteur. Et je crois que ce mot s'accorde bien avec les propos mensongers qui va former face à Paul. Je vais lire les accusations que Tertulle a proférées face à Paul. Et ça se trouve dans les actes 24, chapitre 24, et les versets de 3 à 9. Donc si vous voulez bien prendre vos Bibles, donc on est dans le chapitre 24, verset 3. À 9. On va découvrir ce que dit Tertulle, ses accusations. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Quelles sont les accusations de Tertulle ? La première, c'est que Paul est une peste et qu'il provoque des troubles à l'ordre public qui vont être contagieux. C'est pour ça que le mot peste. Ensuite, la deuxième accusation, c'est d'être le dirigeant de la secte des Nazaréens. Donc, Nazaréens revenant de Nazareth, bien sûr. Et la troisième accusation, c'est qu'il a profané le temple. C'est que Paul, depuis son arrivée à Jérusalem, a profané le temple. Donc ça, c'est les trois accusations que Tertulle a exprimées devant Félix. On va voir maintenant quelles sont les réponses de Paul à ces accusations. En premier, je vais lire ce qui est écrit donc dans les versets suivants, de 10 à 21. Donc vous pouvez garder vos Bibles, et après on commentera ces versets. « Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour t'adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont en eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'est à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Je vais m'arrêter là. Tout d'abord au verset 10, c'est donc le premier verset, donc c'est quand Paul s'adresse à Félix le gouverneur. Il exprime le respect face à ce gouverneur et il lui dit qu'il lui parle avec confiance à cause de son expérience du pouvoir. Il lui dit ça même s'il sait que Félix a gouverné de manière violente, notamment pour réprimer les émeutes, et qu'il est également corrompu, comme nous le verrons à la fin du passage. En effet, Félix garde Paul en prison et s'attend à recevoir de l'argent de Paul. Donc, la première accusation, celle de causer des troubles, d'être une peste, eh bien, Paul exprime clairement dans le verset 12 que personne ne l'a trouvé ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans la ville en train de se disputer avec autrui, et encore moins à provoquer des attroupements subversifs. Au prochain verset, donc le verset 13, il ajoute que ses accusateurs, les Juifs, représentés par Tertulle, sont incapables de prouver les accusations à l'ordre public. En plus, il se réfère à des troubles qui ont pu avoir lieu avant l'arrivée de Paul, car on le voit que Paul est dans Jérusalem que depuis une douzaine de jours. Donc on voit que Paul reprend tous les faits et qu'ils s'avèrent faux. Donc les accusations sont fausses, car ça ne correspond pas aux faits, à ces faits et gestes. La deuxième accusation, c'est celle d'hérésie, qui sont dans les versets 14 à 16. Si on reprend ces versets, que dit Paul dans le verset 14 ? « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. » Vous voyez bien que Paul ne croit pas que suivre Jésus, est une hérésie, car c'est juste la continuité de la religion juive. Il n'a pas, en aucun cas, il n'a trahi la religion de ses pères, car il continue de servir le même Dieu, de respecter ses lois. Et Paul connaît bien les lois juives, bien sûr, car il a été formé, il était pharisien, et il connaissait très bien les lois. Et il a cru aux écrits des prophètes, et qui ont annoncé la résurrection des justes et des injustes. Au niveau de la résurrection, il y a une petite polémique, même au sein des juifs qui l'accusent, entre les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, et les pharisiens croyaient en la résurrection. Paul, dans le verset 21, il dit que c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Donc c'est pour ce problème précis qu'il se retrouve à ce tribunal. Mais donc Paul affirme, pour se défendre, que suivre Jésus, faire partie de la secte des Nazaréens, est un accomplissement de la religion juive et non un reniement. Et donc il répond à ces accusations avec confiance, avec calme et sérénité. Et la dernière accusation, c'est celle de la profanation du temple. Pour réfuter cette dernière accusation, Paul donne le motif de sa visite à Jérusalem, qui était pour apporter l'aumône à son peuple et aussi faire une action de grâce. Ça fait plusieurs années qu'il n'est pas revenu à Jérusalem et il est retourné au temple. Si Paul stipule clairement qu'il s'est rendu au temple pour adorer et rendre grâce à Dieu, et non pour le profaner. Et comme nous le voyons au verset 18, plusieurs juifs d'Asie l'ont vu et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. Je peux relire le verset 18. On peut relire ensemble le verset 18. « C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. » Donc là, apparemment, il a des témoins pour réfuter les accusations de Tertulle et des Juifs qui veulent sa mort. Au niveau de l'aumône, une des raisons pour lesquelles il est venu à Jérusalem, selon les commentaires, il est difficile de dire si c'est la collecte qu'il a faite lors de son voyage dans les différentes églises. Pour chaque accusation, nous voyons que Paul, il répond avec calme, avec respect. En effet, il respecte même son accusateur et il n'attaque pas sa réputation, la réputation de Tertulle. Donc il se limite aux faits, à ce qu'il a fait. et il en appelle à des témoins. Et il rappelle aussi que Tertulle, qu'on pourrait qualifier de partie civile dans l'affaire, se doit d'apporter également des preuves pour soutenir ses accusations, ce que Tertulle ne fait pas. Maintenant, transposons ces accusations à notre époque contemporaine, et j'en appelle à votre expérience de chrétien. Et est-ce que vous avez déjà été accusé d'hérétique ? Avez-vous déjà été accusé de profaner le temple ? Avez-vous déjà été accusé de faire des émeutes ? Probablement pas. Donc ces accusations ne sont plus d'actualité. La façon dont Paul a réagi aux accusations, c'est peut-être l'enseignement de ce passage. Et quelles sont les accusations qu'on porte aux chrétiens, qu'on porte aux évangélistes de nos jours ? Ben moi, j'ai essayé de me rappeler de quoi on m'accuse. Bien souvent, on me dit, mais de naïveté, de crédulité. Comment on peut croire encore en un Dieu de nos jours ? Avec les progrès de la science, avec même l'invisible, maintenant, on peut voir l'invisible. On sait que les atomes existent, mais est-ce que vous pouvez les voir, les atomes ? La Bible dit bien que croire en l'invisible, c'est ce qu'il faut faire. Car on sait qu'aujourd'hui, Jésus est présent parmi nous, même si on ne le voit pas. Bon, là, après, là, je ne vais pas faire un cours d'apologétique, mais voyons aussi les autres accusations d'intolérance, de sectarisme, d'exclusion. En général, la société n'aime pas qu'on parle de la foi. Et je crois que souvent, il passe dans les cercles, on n'aime pas en parler, et on classe ça parmi les sujets tabous. Des fois, il est difficile de partager chaque fois, car on a peur du retour de la personne, de ce que va dire la personne à ce sujet-là, et on va être obligé de se retrouver sur la défensive. Et dans les prochains versets, on voit que Paul, lui, est sur la défensive. Il va même au tribunal pour s'expliquer, pour réfuter les accusations. Donc, lui, il est bien sur la défensive. Et on va voir comment il agit et comment il réagit. Donc, ses actions sont pensées, réfléchies, et il s'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes, comme on voit au verset 16. On peut relire le verset 16 de ce passage. « C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et donc, avec la conscience tranquille, Paul réagit avec calme et respect envers Tertulle, envers Félix, envers la communauté juive, et il reprend une à une les accusations. Et avec confiance, il les réfute. Et mais on peut se demander pourquoi il a tant de confiance en lui. Bien sûr, il est habité par l'Esprit-Saint et il a la maîtrise de soi, il a la patience et il a la paix en lui. Et je me suis demandé, moi, si on m'accuse, si je ne suis déjà pas en paix moi-même, comment je vais pouvoir m'adresser à une personne sans m'énerver, en restant calme, si j'ai déjà pas la paix intérieure qui est donnée par la prière, qui est donnée par le Saint-Esprit. Et ce que je prie pour que chacun d'entre vous, aujourd'hui, ait la paix et que ces louanges, ces prières, vous l'affermissent. Et que la présence de Dieu, présence de Jésus aujourd'hui, vous aide à vous ressourcer et à vous conduire comme Paul face à des accusations qui vont sûrement arriver sur votre chemin. Sinon, si vous avez la possibilité d'entamer une conversation avec vos accusateurs, des non-chrétiens ou des gens qui cherchent, eh bien, vous pouvez préciser les accusations. Comme Paul l'a fait, il demande « Mais est-ce que vous avez des preuves ? Est-ce que vous étiez là ?» Des fois, des gens font des accusations sans vraiment y réfléchir. Et si vous posez quelques questions, ils vont se rendre compte. Vous les laissez réfléchir, vous êtes comme un miroir. Et vos questions vont leur permettre de réfléchir à leurs propres accusations. Sans être un théologien, vous allez pouvoir quand même avancer un peu. Et peut-être l'accusateur va se rendre compte qu'il y a des choses à creuser. Est-ce que ce que vous faites, ce n'est pas complètement naïf ? Parce que vous avez quand même vous avez un parcours. Et si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, dans la dernière partie de ce message, je voudrais parler de ce que fait Paul après avoir réfuté les accusations, car lui, il ne s'arrête pas là, il parle à Félix. Donc, comme je l'ai dit, Félix n'a pas vraiment une vie très calme. Il est corrompu. Il est avide de pouvoir. Et aussi, il en est à sa troisième femme. Enfin, peut-être il a trois femmes, on va dire. Et la dernière, c'est Drusille, qui est avec lui, hein, dont on parle dans ce passage. Et elle avait un premier mariage. Elle a divorcé, quitté son premier mari, qui était juif, et elle a renié la religion juive. Et maintenant, elle est avec Félix. Donc, vous voyez, il a peut-être pas de très bonnes influences, même si l'on sait qu'il connaît la voie des Nazaréens, il connaît la voie, comme on voit dans le verset. Voilà, dans le verset 22, Félix se dit, Félix, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna. Voilà, ça c'est en disant, quand le tribun Lysia sera venu, j'examinerai votre affaire. Mais Paul, comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc il y a un mot clé dans ce passage, dans ce verset, qui est effrayé. Paul discourt avec conviction, avec passion, et Félix, lui, quand il entend parler de la tempérance, du jugement à venir, eh bien, Félix a peut-être de bonnes raisons d'être effrayé. Comme il a une vie dissolue, il a du sang sur les mains, et il a beaucoup, beaucoup de choses à se faire pardonner. Enfin, c'est un pécheur. Il est effrayé et demande à Paul de s'en aller. Est-ce que vous avez déjà observé ce genre de réaction lors de vos interactions avec des non-chrétiens ? Peut-être maintenant, il y en a qui ils vous répondent par une indifférence. Mais là, Félix, lui, est effrayé car il doit croire. Pour être effrayé, il ne faut pas être indifférent. Donc il doit croire que quand même, Paul parle de la vérité. Et qu'il y a des raisons d'être effrayé car la vie est courte par rapport à l'éternité. Et que le jugement de Dieu va se porter sur lui. Et Paul aussi parle d'irréprochabilité. Donc, Félix est loin d'être irréprochable. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais finir en priant. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour nous faire partager à ton royaume, ici sur terre et aussi dans les cieux. Merci à chacun d'avoir répondu à ton appel et de te suivre chaque jour.